Question politique, c'est parti. Bonjour et merci d'être fidèle au rendez-vous du dimanche de France Inter, du journal Le Monde et de France Info. Invité de questions politiques jusqu'à 13h, une figure singulière dans la vie politique française. On peut aussi bien dire de lui qu'il est un intellectuel engagé en politique qu'un politique passionné par la vie des idées. Il appartient à la majorité mais il n'a pas voulu rejoindre La République En Marche. On lui doit de nombreux livres dont un essai qui a fait date, Droite, année zéro. C'était en 1988 et un titre qui est toujours d'une brûlante actualité. C'est aussi un Européen convaincu. Ancien eurodéputé, il connaît parfaitement le fonctionnement de l'UE et nous voulions l'entendre deux jours après le Conseil européen de Bruxelles et alors que les grandes manœuvres se poursuivent pour désigner le futur président de la Commission. Notre invité donc est élu de la 12e circonscription des Hauts-de-Seine. Jean-Louis Bourlange s'est installé dans notre studio pour intervenir le hashtag #QuestionPol ou l'application France Inter.
France Inter, question politique, Ali Badou.
Bonjour Jean-Louis Bourlange.
Bonjour.
Et bienvenue pour vous interroger. Elles sont en huitième, elles jouent contre le Brésil ce soir. Nathalie Saint-Cric de France Télévisions.
Bonjour à tous, évidemment. On essaie d'être fraîche malgré le temps.
Françoise Fressoz du journal Le Monde, bonjour Françoise.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
Tout en bleu et Karine Bécard de France Inter, bonjour Karine.
Salut tout le monde.
Vous avez préparé le portrait de Jean-Louis Bourlange et nous le découvrirons avec lui dans quelques minutes. On va commencer par l'Europe, Jean-Louis Bourlange, sujet que vous connaissez bien. Comment comprendre que les 28 aient tant de mal à s'accorder sur celui qui doit normalement, celui qui devrait présider la Commission européenne ?
Bah, c'est pas très difficile de comprendre leurs difficultés parce que d'abord c'est une Europe, une Union européenne extrêmement fragmentée. Le couple franco-allemand n'est pas au mieux de sa forme. Il y a une séparation est-ouest avec sur des valeurs, des différences de valeurs assez fondamentales. Il y a un problème, une anomalie complète qui est le maintien pendant quelque temps du Royaume-Uni dans le système, alors qu'il c'est un système de... On a des abonnés absents, eux, ils ont inventé le contraire, qui sont les désabonnés présents. Donc c'est un système assez particulier. Et on a en plus des mécanismes qui ne sont pas très au point. Alors, ils ont un système très simple, qui est le vote, la majorité qualifiée. On a créé ce système pour éviter le blocage, et manifestement,
28 chefs d'État et gouvernement votent.
Ils n'ont pas envie, oui.
Et ils n'ont pas envie.
Ils n'ont pas envie, ils veulent, ce que je comprends, trouver un consensus, mais il faudra qu'à l'avenir ils fassent ça. Et ils ont inventé un système que je suis tout à fait d'accord avec Emmanuel Macron là-dessus, que je trouve très mauvais. D'ailleurs, Françoise Fressoz me reconnaîtra le fait qu'en 2014, j'avais fait une page entière dans son journal pour dire le mal que je pensais du Spitzenkandidat, pour une raison simple, c'est qu'on peut pas... Spitzenkandidat, c'est le candidat du parti arrivé en tête, le PPE en l'occurrence, doit être nommé président de la Commission. Ça ne marche pas sur un scrutin à un tour. Pour avoir quelqu'un qui soit vraiment représentatif, je donnerai un exemple simple. Les élections de 2002 en France, vous avez Jospin, Chirac et Le Pen qui sont dans un mouchoir. Oui. Jospin est éliminé, Chirac et Le Pen restent en tête. Au second tour, Chirac 82%, Le Pen 18%. Donc le premier tour n'est pas significatif. Ce qui est significatif d'un candidat légitime, ça serait un candidat qui sortirait des deux tours. Et là, on l'a pas. Donc ils ont un mauvais système, il faut qu'ils s'en débarrassent. Alors, ils s'en sont débarrassés et maintenant, ils sont devant le choix.
Est-ce que la France s'est pas mal comportée vis-à-vis de Manfred Weber, puisque la règle, malgré tout, elle existe. On peut la contester, mais la règle existant, est-ce que la France s'est pas mal comportée avec Manfred Weber et du coup, est-ce qu'on n'est pas dans une situation totalement bloquée désormais?
Non, elle n'existe pas, cette règle. Il y a eu une convention en 2014 qui a d'ailleurs été très mal utilisée, car on a dit que c'était Jean-Claude Juncker, qui est d'ailleurs un homme tout à fait remarquable. Moi, je ne m'associe pas aux critiques.
C'est rare. C'est très très rare d'entendre ça dans la bouche.
Oui, mais je le connais bien. Bon, c'est un homme qui est certainement en bout de course, malade, très fatigué, etc. Mais qui était d'une très grande acuité intellectuelle. Bah, peu importe l'affaire, mais il a été désigné par un PPE qui était arrivé de très très peu devant les socialistes, alors même que au sein du PPE, il y avait le Fidesz d'Orban qui était contre. Et Orban est le seul à avoir voté au Conseil européen contre Juncker. Donc c'est un système qui était totalement boiteux, qui n'était pas créateur de légitimité, qu'à mon avis François Hollande a eu tort de cautionner, et il faut inventer autre chose. Il faut faire soit quelque chose à deux, enfin il faut inventer autre chose.
Mais ma question c'est, est-ce qu'on s'est pas mal comporté
Non, alors mal comporté, je ne pense pas. Manfred Weber est un, certainement les propos qui ont été tenus par la tête de liste Renaissance étaient
Nathalie
certainement
Loiseau.
Nathalie Loiseau, c'est certainement très malvenu sur Manfred Weber qu'elle avait traité d'ectoplasme. Ça, on se demande pourquoi.
Mais même Macron a quand même été
Emmanuel Macron a simplement dit qu'il était contre le système. Il était contre le système du Spitzen. Et je crois qu'il faut comprendre que sa remarque de fond est justifiée. Et d'ailleurs, Merkel était elle-même hostile en 2014 à ce système. Et en même temps, il a dit que Manfred Weber manquait d'expérience, ce que tout le monde reconnaît. Et c'est pas du tout insultant que de dire de quelqu'un qui n'a eu aucune responsabilité dans l'État fédéral, qui n'a eu qu'une responsabilité de chef de parti au sein du PE, n'est peut-être pas le mieux placé pour diriger cette mécanique de précision qu'est la Commission européenne.
Vous qui êtes très bien placé, très observateur de toutes ces choses-là, quel est votre candidat et quel est votre pronostic pour la Commission européenne ?
Jean-Louis Branche.
C'est plus facile de dire mon candidat que mon pronostic.
Alors, votre candidat, pour commencer.
Mon candidat, non. Et moi, j'ai suivi Michel Barnier depuis très longtemps. Je crois qu'il a toutes les qualités requises aujourd'hui. Parce que il faut voir que l'Europe, aujourd'hui, elle est comme la France décrite par Jérôme Fourquet. Elle est en voie d'archipélisation. Donc, il faut quelqu'un qui sache établir du lien, de la confiance, de la relation. Et c'est ce que Michel Barnier a fait très très bien à travers la mission qui lui a été confiée de préparer l'Union européenne au Brexit.
Qu'il soit de droite.
Oui, et je pense que c'est bien. Sinon, moi je serais, mais je pense qu'ils ont éliminé cette procédure. Je trouve que la candidate danoise, Margrethe Vestager, est d'une très grande qualité. On parle maintenant de Christine Lagarde. Je ne suis pas sûr que ce soit pas un nom qui sorte un peu comme ça, mais qui est d'une très grande qualité aussi. Et Margrethe Vestager, je trouve qu'on lui fait un mauvais procès sur l'affaire Alstom-Siemens, parce qu'elle a simplement respecté les traités et les procédures auxquelles elle était contrainte de respecter.
Pour continuer la question de Françoise, quelles sont les trois qualités que doit avoir ce président ? Vous avez parlé de Michel Barnier. Quelles sont les choses fondamentales ? Il doit parler français ? Qu'est-ce que c'est ?
Écoutez, nous pensons qu'il faut parler français. C'est quand même une situation paradoxale que l'anglais demeure la langue officielle, quasi officielle, alors qu'il y a que l'Irlande. On pourrait d'ailleurs mettre le gaélique, comme ça il n'y aurait plus de langue anglaise officielle. Non, le français pour nous c'est très précieux. Ce à quoi nous sommes attachés surtout, c'est au maintien du multilinguisme. Aujourd'hui, ce qui n'est pas du tout admissible dans le comportement de la Commission et dans le comportement des institutions européennes, c'est le monolinguisme anglais. Non. C'est ça qui n'est pas...
Alors, Michel Barnier, est-ce qu'il parle assez bien anglais, justement ?
Bah, écoutez, il s'est bien amélioré.
Non, hein, parce qu'il parle français, ça, pour le coup.
Je le connais depuis que je suis très jeune.
Mais est-ce qu'il pourrait, justement, occuper le poste de président de la Commission ?
Il a progressé constamment.
Sans être quasiment bilingue en anglais.
Les autres qualités, parce que finalement, la langue, c'est...
Oui, mais c'est... Manfred Weber ne parle pas français. C'est un peu ennuyé.
Mais lui, bon. Les autres qualités pour un président, ça doit être quoi ?
Mais bon... C'est vous qui l'avez dit. Moi, j'ai dit qu'il parle beaucoup mieux quand il était jeune.
Et alors, après, les autres qualités ?
C'est l'avantage de ne plus être très jeune, justement. Et mais les autres qualités, je les ai dit. C'est un homme qui a réussi tout ce qu'il a fait. Hein, sauf le référendum, mais ça, il pouvait rien en 2005. En termes d'affaires étrangères, c'était pas lui sa responsabilité.
Trop, hein.
Mais il a réussi les Jeux Olympiques, il a été un bon ministre de l'Agriculture, il a été sensible à tous les problèmes d'environnement. Je crois que c'est un homme qui sait exactement le point d'équilibre de l'institution qu'on lui confie. Or, c'est ça qui est important au sein de la Commission européenne. Il faut quelqu'un qui sache exactement jusqu'où on peut aller dans le sens de renforcement de l'Union. Il faut pas faire comme Barroso qui a vraiment tout laissé tomber. Il faut pas faire non plus comme Jean-Claude Juncker qui a fait des choses bien mais qui n'avait pas vraiment les moyens politiques de faire les choses. Je crois que Michel Barnier est un homme qui pourrait, s'il était nommé, vraiment remettre ensemble les morceaux de la porcelaine européenne.
Ça dépend de qui, ça ? Ça dépend uniquement de la volonté du président de la République, d'Emmanuel Macron, et de sa position dans le rapport de force avec
ses
27
autres. Mais pas du tout.
Ça
dépend de les traités sont clairs. Il était le président de la Commission est désigné à la majorité qualifiée. Ensuite, il faut qu'il soit approuvée par le Parlement européen. On oublie en France, la Commission est totalement démocratique. Il y a trois décisions. La décision du Conseil européen. Ensuite, la décision du Parlement européen. Ensuite, les commissaires sont négociés entre le président et chacun des États membres, avec des soucis comme le souci d'équilibre homme-femme, etc. Et après, les commissaires sont entendus dans des auditions, des hearings, comme on dit en bon français là-bas, sont entendus par les commissions compétentes dans la spécialité qui leur a été donnée. Et après, il y a un vote d'approbation par le Parlement et ultérieurement, si on n'est pas content, il y a un vote de censure. Je voudrais qu'on cesse de dire que la Commission est un ensemble technocratique qui n'est responsable devant personne.
Est-ce que juste les Français peuvent comprendre ce genre de nomination? C'est-à-dire, c'est pas une nomination, c'est une négociation, et on a l'impression qu'on risque peut-être d'avoir, comme dans certains partis, genre LR, le plus petit dénominateur commun pour que tout le monde se mette d'accord. Mmh. Est-ce que vous croyez que les gens qui ont voté aux européennes peuvent comprendre toutes ces tractations dont on nous dit que ça peut durer encore un mois?
C'est pas une dictature, c'est pas un empire. Je vais vous dire, je crois qu'il est tout à fait normal. On a une majorité. Alors, ne parlons pas de fédéralisme, que ça fait peur aux enfants, mais parlons d'un système dual. On a la démocratie européenne est duale, c'est-à-dire qu'elle associe des États qui ont une règle de fonctionnement. Quand c'est l'unanimité, ils sont bloqués. Quand c'est la majorité qualifiée, ils avancent. Et nous avons par ailleurs une chambre des citoyens qui est le Parlement européen. Et vous devez avoir, un peu comme aux États-Unis, c'est assez proche du système américain, ce que je décris, il faut avoir un accord entre ces deux majorités. Et maintenant, ce qui est intéressant, je finis juste, mais je crois que c'est assez éclairant, sur le Conseil européen, la tension, elle est évidemment, puisqu'on est à l'unanimité sur beaucoup de choses, qui veulent être à l'unanimité, elle est entre l'Est illibéral, c'est-à-dire Salvini, Orban, etc., et les autres. Et au Parlement européen, on a ce que j'appellerais une majorité Dalton. Pourquoi une majorité Dalton? Parce que vous avez quatre partenaires de taille inégale qui sont en dégradé, de Joe à d'Averell, le plus grand, le PPE à Joe. Ils sont chacun séparés par une quarantaine de parlementaires et c'est ensemble. Donc le point d'équilibre au Parlement européen n'est pas tout à fait le même qu'au Conseil européen. Ça, c'est une difficulté, mais il faut apprendre à gérer les difficultés. C'est ça l'Europe. C'est pas de les ignorer, c'est pas d'installer des régimes technocratiques ou dictatoriaux, c'est d'apprendre à faire des compromis. C'est pas tout à fait la culture dominante en France.
Françoise Fressoz.
Alors justement, votre regard sur cette Europe, au moment où il y a quand même une attente très forte des citoyens, à la fois pour l'écologie, pour plus de justice, et puis pour une défense des valeurs européennes de la démocratie. Est-ce que vous pensez qu'on est enquisté, ou est-ce qu'on peut avoir des raisons d'espérer, et est-ce que Emmanuel Macron a raison de réorienter un peu ses priorités à lui, plutôt qu'un resserrement de la zone euro, ça serait plutôt le climat et la défense et aussi Schengen?
Jean-Louis Bourlange. Je crois que quand on oppose Merkel à Macron, il faut pas voir simplement le bisbille personnel, etc. C'est pas important. Mais on voit bien qu'il y a deux conceptions différentes de l'équilibre de l'Europe. Merkel est quelqu'un qui est très européenne, mais elle trouve que l'Europe telle qu'elle est parfaite. Et qu'il faut respecter. L'Allemagne s'y trouve très bien, elle a obtenu tout ce qu'elle voulait de légitime, c'est-à-dire la sécurité, l'unité, la démocratie et la prospérité, qui étaient les quatre biens après lesquels elle avait couru pendant toute son histoire sans les obtenir. Là, elle les a, et elle trouve que ce système qui lui a donné ça est très bien. Donc la bicyclette doit rester debout, mais doit s'arrêter. Emmanuel Macron pense que nous sommes entrés dans un cycle historique totalement différent, et que les Européens sont désormais seuls, que, pour résumer les choses à propos des États-Unis, leurs alliés ne sont plus leurs amis, ce qui est quand même compliqué comme situation à gérer, que les menaces contre la démocratie, y compris à l'intérieur de l'Union européenne, sont très fortes, qu'on a les menaces terroristes, qu'on a des Chinois qui ont dissocié complètement la mondialisation capitaliste et la démocratie, on a une Russie qui est redevenue beaucoup plus agressive qu'elle n'était il y a 15 ans, et donc que nous devons absolument faire un saut qualitatif, comme on dit à Bruxelles, vers plus d'Europe politique. Et là, on en est là, et là, il essaie d'entraîner son monde, évidemment ça résiste, mais je pense qu'il est plus écouté qu'on ne le dit, et je pense que les Allemands, lentement, insensiblement peut-être, évolue et que les positions de l'Allemagne aujourd'hui sur la banque centrale, sur la défense, sur la protection de la concurrence vis-à-vis des Chinois, oui. L'attitude des Allemands n'est plus la même que ce qu'elle était il y a 20 ans.
Encore une question sur l'Europe et on passe au portrait.
Donc dans le contexte que vous venez de présenter, quelle est la situation pour vous la plus grave aujourd'hui pour l'avenir de l'Europe ? Est-ce que c'est ce qui se passe en Italie ou est-ce ce qui se passe en Angleterre, au Royaume-Uni ?
Jean-Louis Bourlange.
Non, l'Angleterre, c'est très embêtant parce que c'est quand même extrêmement grave de voir que Trump fait des petits. C'est ça qui, il y a quand même, on voit bien que cette radicalisation populiste est une tendance très profonde parmi les peuples occidentaux et c'est ça que marque le Royaume-Uni. Cela dit, le Royaume-Uni n'a jamais été pleinement dedans. Ils sont rentrés parce que ça a marché, alors qu'ils pensaient que ça allait échouer et qu'ils voulaient pas être sur le bord de la route. Ils sont sortis parce qu'ils pensaient qu'en sortant, ça allait être détruit.
Ils sont pas vraiment sortis.
Oui, enfin, si, là, je crois qu'ils sont quand même, si. Ils ont vraiment un pied et demi.
Oui, vous avez dit désabonnés présents. Alors, oui, les désabonnés présents.
Parce qu'on est dans cette situation paradoxale. Et là, Macron avait d'ailleurs tout à fait raison de dire que ça peut pas durer éternellement. Il était un peu seul, pas tout à fait d'ailleurs. Il y avait Rutte, les Espagnols qui étaient avec lui. Mais Merkel voulait absolument ne pas changer. Mais il a dit, écoutez, ce système de canard boiteux ne peut pas durer éternellement. Clair, il va sortir le 31 octobre.
Vous avez été un grand admirateur du monde anglo-saxon. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui?
Pour
moi, c'est Jean-Louis Bourlange. Vous savez, moi, le soir, quand je rentre à minuit, puisqu'on travaille à point d'heure dans ce Parlement national, et je regarde des trucs. Alors, je vois la bataille d'Angleterre avec Laurence Olivier. Je suis content, je suis heureux, je retrouve l'Angleterre que j'aime, etc. Je parle pas de Downton Abbey, je suis moins fier de le comportement de l'aristocratie britannique.
Et Boris Johnson, en revanche,
et là, je tombe
pas
sur Boris Johnson, et maintenant, il est clair, comme je le disais avant, en off, comme on disait, enfin, je le disais à Françoise avant, il est clair que Boris Johnson va être le leader et le premier ministre britannique, sauf si soit sa femme, soit son frère le tue, ce qui est peu probable.
On passe au portrait. Karine Bécard a donc préparé votre portrait, Jean-Louis Bourlange.
Jean-Louis Bourlange, vous avez longtemps été un habitué du dimanche à la radio en fin de matinée. L'émission s'appelait L'Esprit public. C'était sur France Culture et vous en étiez un invité régulier. Aujourd'hui, en étant devenu macroniste, fini les grands débats intellectuels et philosophiques, vous vous retrouvez convié à questions politiques. Alors parlons de votre parcours assez atypique, c'est vrai, en tout cas pour un Français passionné par notre destin européen. Vous avez été 18 ans député à Bruxelles, vous avez présidé au sein du Parlement des commissions parmi les plus réputées et vous avez même été, il y a maintenant quelques années, l'un des rapporteurs du budget de l'Union européenne. En fait, tout a vraiment commencé pour vous, Jean-Louis Bourlange, il y a précisément 30 ans. Certes, vous aviez déjà été conseiller municipal à Dieppe, mais tout a changé, tout s'est accéléré. Quand vous vous êtes retrouvé sur la liste de Simone Veil, vous aviez 43 ans, c'était votre première élection européenne.
Ce que j'ai aimé en elle, c'est évidemment l'engagement européen. Elle m'a appris l'Europe en 89. Elle disait toujours, en 45, soit on les tuait tous, ce qui n'était évidemment pas une option. En parlant des Allemands, soit on se réconcilie et on fait quelque chose.
Elle m'a appris l'Europe. Jolie formule. Et bel hommage que vous rendez le 30 juin 2017 à Simone Veil qui vient de disparaître. Alors ensuite vous décidez de quitter l'Europe, de démissionner. Nous sommes en 2007. Et l'énarque que vous êtes agrégé de lettres aussi, retourne et retrouve la vie trépidante d'un conseiller maître à la Cour des comptes. Maintenant, politiquement parlant, Jean-Louis Bourlange, pendant près de 10 ans, l'ancien vice-président de l'UDF va également prendre la tête de je ne sais combien de cercles, de clubs, de think tank, de laboratoire pour faire renaître le centre, un centre que vous jugez sérieusement abîmé par François Bayrou, dont vous vous êtes éloigné.
Le moment Bayrou est passé. Je peux me tromper, mais je pense qu'il a fait des choix. Il a dit aux Français, on va abolir la bipolarité, il ne l'a pas aboli. Ensuite, il a dit, on va détruire le sarkozysme, il ne l'a pas détruit. Je pense qu'il a perdu beaucoup de crédit et beaucoup de monde en route.
Ce 9 juin 2010, vous apparaissez, Jean-Louis Bourlanges, comme souvent, comme un observateur avisé de la vie politique. Sauf qu'il a fini par gagner François Bayrou, certes par procuration, par le truchement d'Emmanuel Macron, mais c'est en partie grâce à lui, si vous siégez aujourd'hui au Palais Bourbon. Et à bientôt 73 ans, vous avez, c'est vrai, défendu l'Europe passionnément, mais être élu à l'Assemblée, vous en aviez, semble-t-il, toujours rêvé.
Réaction Jean-Louis Bourlanges.
Oui, alors sur Bayrou, évidemment, ce portrait est cruel, puisque maintenant je suis un fidèle. J'ai quitté François Bayrou de façon très très nette, pas sur le plan personnel, parce que nous avons, comme je n'ai pas été à la soupe, hein, j'ai soutenu Sarkozy au second tour en 2007, alors que lui s'est séparé violemment du sarkozysme, mais je n'ai pas rejoint la majorité, et j'ai quitté précisément le Parlement européen, parce que j'étais en porte-à-faux. Je ne voulais pas ni rejoindre. J'avais été élu sur les listes UDF, j'étais en désaccord avec l'UDF, et je suis allé au congrès, la réunion fondatrice du Modem, et j'ai dit, j'étais le seul, hein, personne des centristes qui quittaient Bayrou n'était venu le voir. Et j'ai dit, je suis venu vous dire au revoir. Et Michel Mercier, assez élégamment, a dit, je remercie Jean-Louis de nous avoir dit au revoir, et non adieu. C'était assez prémonitoire. Je crois que François Bayrou a eu tout à fait tort, effectivement, de se lancer dans le vide, c'est-à-dire il avait un groupe parlementaire important, il a rompu avec la droite, il ne s'est pas allié avec la gauche, et il s'est retrouvé dans une situation impossible. Mais quand vous me dites, et je lui dois mon poste, assurément, ainsi qu'à Macron, mais comment ça s'est fait ? Un mot pour savoir comment ça s'est fait. Bayrou avait fait un article en novembre 2016 extrêmement dur contre Macron. Et j'avais écrit dans le Point, en disant, non, on va pas jusqu'où, est-ce que Bayrou va ruiner les chances du centre ? Et quand il a décidé de s'allier, parce que Bayrou ne se rallie pas, il s'allie, de s'allier à Macron, Macron, il m'a appelé, il m'a dit je voudrais te voir, il dit ça, ce que tu penses de ma décision de rejoindre Macron, et je lui ai dit qu'après ce que j'avais écrit en le critiquant d'avoir été si dur avec Macron, je me réjouis de le faire, et je crois que c'est admirable parce que effectivement
pourquoi ne pas être allé au bout Jean-Louis Bourlanges, pourquoi ne pas avoir rejoint La République en Marche?
Oh ben moi pourquoi? Parce que c'est pas ma conception du parti politique. Je trouve que c'est le République en Marche sont des gens de qualité. Pour beaucoup d'entre eux, pas tous bien sûr, mais pour beaucoup d'entre eux, mais c'est une courroie de transmission, c'est pas un parti politique. Non. Moi je crois aux partis politiques qui viennent de la base
et justement, on va en parler de la recomposition politique et de la place que peuvent y avoir les partis. Un mot, Jean-Louis Bourlanges, pour terminer.
Oui, mais sur François Bayrou, quand je dis que son heure était passée, c'est exact. Ce qui est admirable chez Bayrou, je n'ai jamais vu ça chez un homme politique, c'est le fait de dire, à un moment, mon heure est passée, c'est à quelqu'un d'autre de faire le débat. J'ai jamais vu cette relation. Et Bayrou est vraiment un très, très grand fidèle de Macron.
Il ne lui doit rien. Emmanuel Macron.
Justement, il a rejoint Emmanuel Macron.
C'est quand même très appréciable moralement.
Comment jugez-vous, au bout de 2 ans, les opérations politiques d'Emmanuel Macron? C'est-à-dire, en gros, sa capacité à détruire une partie de la gauche, une grande partie. La droite aujourd'hui, vous aussi, vous analysez beaucoup ce qui s'est passé à droite. Est-ce que vous dites chapeau, c'est ce qu'on devait faire pour la France? Au nom des réformes nécessaires, ou alors ce que vous considérez qu'il y a un danger politique quand on voit aujourd'hui qu'on a l'impression qu'il y a Emmanuel Macron, le Rassemblement National et du vide autour.
Je suis d'accord avec vous, ce n'est pas une situation absolument parfaite que d'être en face, comme seule opposition, d'avoir le Front National. Mais ce n'est pas un choix de Macron, c'est un choix de la demande. On a la même chose en Angleterre, on a la même chose sous une autre forme en Italie, on a la même chose partout.
Il y a une demande, la gauche et la droite qui sont responsables de cette espèce de quand vous parlez de la droite en disant c'est l'âne de Buridan, ils se sont autodétruits eux-mêmes.
Je veux pas faire de polémique. Je crois qu'Emmanuel Macron a le premier pris acte, et ça je l'avais d'ailleurs écrit à ce moment-là, dès 2016, de l'autodestruction du Parti Socialiste. Sous Hollande, le Parti Socialiste n'existait plus comme force unie. Ensuite, il y a eu le problème de Fillon. Là, il a essentiellement gagné à cause des erreurs personnelles de François Fillon. Mais on voit maintenant, à travers l'élection européenne, que là aussi, l'unité profonde de la droite est un mythe. Et que donc, on est dans une situation politique tout à fait nouvelle. Alors, mais c'est pas notre faute, c'est pas la faute de Macron si une grande partie de nos concitoyens
même
sont
si
attirés par le Front National.
On s'arrête sur la droite parce que c'est effectivement l'événement des européennes. Le 26 mai, on s'aperçoit qu'une bonne partie de l'électorat de droite libérale a fui vers Macron et que, au fond, de l'autre côté, c'est plutôt le Rassemblement National qui en profite. Est-ce que pour vous, la droite existe encore ou est-ce qu'elle est en danger de mort?
Moi, je crois qu'il y a toujours eu, deux droites. C'est compliqué. Mais là, depuis, il y a quand même une droite qui est, dont je crois depuis la guerre, qui est autour des idées développées par Raymond Aron. Très franchement, c'est-à-dire une droite qui croit à l'état de droit, qui croit à l'économie de marché, qui croit à la sécurité collective, qui croit à une conception prudente, parce qu'Aron n'était pas du tout un fédéraliste européen défoncé, pas du tout, c'était un prudent en matière européenne, mais qui croit à tout cela, et ça a donné de remarquables résultats. On a eu la croissance, on a eu le développement de l'État-providence, on a eu la sécurité face à l'URSS, et pour finir, la victoire face à l'URSS, on a eu des libertés publiques qui se sont renforcés. Bon, et puis maintenant, on a à côté de ça, on a une droite, je ne sais pas si c'est le retour aux années 30, pour partie oui, pour partie non, mais qui campe sur des idées entièrement opposées, qui sont des idées illibérales sur le plan démocratique, qui sont des idées protectionnistes sur le plan économique. Alors c'est l'économie de marché.
Là, vous décrivez les Républicains ?
Non, je décris une sensibilité, et je pense qui est incarnée de plus en plus par le Front National, qui est donc le refus de l'Europe, le refus, la fascination pour des régimes dictatoriaux, Salvini et les Italiens pour les Chinois, Marine Le Pen et Salvini et Orban pour les Russes, etc., les Polonais pour Trump, enfin tout ça n'est pas très satisfaisant. Et le problème de LR, c'est qu'il fallait choisir. Est-ce qu'elle restait fidèle à ce grand héritage qu'avait assumé le général de Gaulle, Georges Pompidou, qui avait très bien assumé, ça n'était pas évident, parce que il n'était pas tout à fait haronien, le père de Gaulle, dans les années 50, mais il a quand même tout à fait assumé cette construction de l'Europe, cette modernisation, cette libéralisation de l'économie, bon, tout ça, est-ce qu'on tourne le dos ou pas? Et le problème, c'est dans cela que j'ai dit que le LR ressemblait à l'âne du Buridan qui, vous savez, n'arrive pas à choisir entre le baquet d'eau et donc meurt de faim et de soif. Je crois que le problème de Wauquiez, c'est qu'il n'avait pas choisi. Et alors, ils ont inventé François-Xavier Bellamy, qui est un homme respectable, qui incarnait quelque chose de différent, une sorte de conservatisme moral qui était très digne, mais qui alors a été rejeté des deux côtés.
C'est l'avenir, la question de oui. Françoise. Parce que là, le diagnostic, oui. On vous a lu, on vous a entendu, on a compris l'âne de Buridan. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a de la place pour les Républicains ou est-ce qu'il y a une place pour les Républicains mélangés à Marion Maréchal, une espèce de quelque chose qui va se recomposer?
Écoutez, moi, je vais pas faire l'affaire des Républicains. Je suis comme Monsieur le maire, comme Monsieur Darmanin, comme les gens de l'UDF, comme les amis de Juppé, etc. Hein. J'ai choisi parce que j'estimais que c'était là, aux côtés d'Emmanuel Macron, qu'on pouvait le mieux défendre.
Donc la droite, c'est la République en marche, mais les Républicains, le parti est mort.
C'est un peu. Alors, si je fais une sorte de numéro schizophrénique et que à la place des Républicains, je trouve que ça serait une erreur profonde de leur part. C'est la tentation d'une partie d'entre eux de coller à des thèmes extraordinairement revanchards, extraordinairement anti-macroniens, où ils défendent des idées contraires aux leurs, par exemple sur la privatisation d'aéroports de Paris. Ils ont toujours été pour ça. Ils attaquent en permanence leur propre programme à l'Assemblée. Je crois qu'ils doivent se guérir de ça. Ils devraient profiter du fait que Macron n'est pas éternel, les hommes politiques s'usent, que demain ou après-demain, sans doute pas en 22, en 27, il y aura plus de Macron, puisque on ne peut faire que deux mandats à la présidentielle. Et je pense que s'ils campent sur des positions légèrement plus conservatrice que celle de Macron, mais dans le courant principal européen, etc. Mais
c'est-à-dire que la droite, c'est Macron, et qu'il faut attendre que Macron soit plus là pour que la droite puisse redevenir la droite, votre pensée?
Oui, enfin, moi, je sais pas si la droite doit devenir la droite. Je pense que la droite a réussi parce qu'elle n'a jamais été vraiment la droite. C'est exactement le contraire de ce que pense Wauquiez. Wauquiez pense que la droite doit être de droite. Moi, je pense que la droite ne réussit, comme l'avait dit très bien de Gaulle, que quand elle n'est pas tout à fait de droite.
Et ben voilà. Donc Emmanuel Macron, c'est le leader de la nouvelle droite qui n'est pas totalement à droite.
Mais alors, du coup, qu'est-ce que vous pensez?
Merci, Nathalie.
Mais alors, du coup, qu'est-ce que vous pensez quand même de ce président qui, au départ, est élu par beaucoup de voix de l'électorat de gauche et qui finalement a glissé et qui aujourd'hui séduit de plus en plus l'électorat de droite. Comment on tient longtemps comme ça, en zigzagant?
Bah, ça a pas mal marché, mais je crois pas qu'il ait glissé, voyez-vous. Je vous arrête sur ce mot. Je pense que le problème du pays, c'est que on a vraiment des réformes à faire dans ce pays qui ne sont pas des réformes qui plaisent à l'électorat de gauche et même à l'électorat populaire. Qu'il s'agisse de l'assouplissement du code du travail, qu'il s'agisse des comptes de la sécurité sociale, qu'il s'agisse de l'âge de la retraite, qu'il s'agisse de la fiscalité, de l'impôt sur l'ISF, etc. Ce sont des réformes. Tous les experts, l'OCDE, etc., vous disent il faut les faire. Et d'ailleurs, celles qu'on a faites, y compris celles que Hollande a faites, rendons hommage au CICE de Hollande, qui a été critiqué par la gauche de la gauche, ça a marché. Ça a produit les résultats très heureux que nous voyons aujourd'hui. Donc ça, alors quand vous faites ça, bah, vous prenez des coups à gauche, et en revanche, la droite dit « c'est pas si mal ».
Vous ne prenez pas que des coups à gauche, vous prenez des coups dans l'électorat populaire, parce que ce qui est très intéressant dans la situation, c'est au fond cette France qui va bien et la France qui va mal, et une sorte de confrontation. Ça, comment est-ce qu'on le résout? Est-ce qu'on s'en accommode ou est-ce qu'on se dit il faut quand même éviter le retour de la lutte des classes?
Ben écoutez, moi j'ai sous-estimé Emmanuel Macron en décembre parce que j'ai considéré que ce grand débat c'est un peu la blague. Or il est vraiment allé au charbon, il est vraiment allé au contact, il a pris des mesures de relance sans mettre en cause.
D'accord, Jean-Louis Bourlange, mais le résultat des européennes sont flagrants. 40% des ouvriers ont voté pour le Rassemblement national, 27% des employés et même Gérald Darmanin, que vous citiez tout à l'heure, s'étonne ou s'inquiète que La République En Marche ne soit devenue le parti des bourgeois, des élites, et qu'il ait complètement décroché avec les classes populaires. Et ben voilà, donc répondez clairement à Françoise.
Il faut avoir des résultats, on commence à les avoir. On a vraiment, c'est vrai que je crois qu'il ne faut pas sous-estimer les raisons pour lesquelles, depuis pratiquement la disparition de Raymond Barre au gouvernement, ce pays n'a jamais été en mesure de faire les réformes qui lui permettaient de réussir économiquement, parce que les Français sont très très réservés. Il y avait effectivement une dimension courageuse. Moi, je crois que ces réformes sont faites pour l'essentiel, pas surtout. Il y a encore beaucoup de choses à changer, mais pas le problème des retraites qui va être très dur.
Mais les classes populaires ont décroché.
Pour l'instant, quand le pouvoir d'achat augmente, quand l'emploi progresse, quand on a des résultats, alors que depuis 20 ans, on disait l'emploi, on a tout essayé, comme disait Mitterrand, etc., rien ne peut marcher.
Mais qu'est-ce qu'on fait aussi ? On réduit les indemnités des cadres pour satisfaire un peu plus l'électorat populaire ?
Cette mesure ne me plaît pas, parce que je crois qu'on peut réduire les indemnités des cadres à condition qu'on réduise en même temps les cotisations, comme font les Allemands. Les Allemands, on plafonne les cotisations, on plafonne les indemnités. Mais faire des cadres les cochons de payants du système et leur mégoter.
Donc les classes populaires reviendront à la fin du quinquennat quand la France sera devenue un pays merveilleux et que toutes les réformes auront produit leurs fruits.
Ne vous caricaturez pas, cher ami.
C'était juste pour clarifier votre pensée, Jean-Louis Bourlange.
Est-ce que vous pensez, pour revenir sur la question de François, sur la lutte des classes, est-ce que vous pensez que c'est uniquement un problème de résultat ou est-ce qu'il y a également un problème de style? Dans son discours de politique générale, Édouard Philippe a parlé d'arrogance. Emmanuel Macron a dit qu'il fallait de l'humanité à l'OIT. Est-ce qu'il n'y a pas dans ce gouvernement et dans les gens qui... Et même dans ce parti qui n'en est pas un pour vous, quelque chose qui relève non pas d'un mépris de classe, mais du fait que ce sont des gens parfaitement intégrés, inclus comme on dit, et qui ne savent pas parler forcément au peuple, comme ou Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen peuvent savoir le faire.
Je crois que ce n'est ni simplement un problème de résultat, ni un problème d'arrogance. Je pense que le bon diagnostic, et en tout cas je vais le partager, mais il avait beaucoup plus travaillé que moi, il a publié un livre, moi j'avais fait que des articles là-dessus, le bon diagnostic c'est celui de Jérôme Fourquet. C'est-à-dire qu'on a une société qui est décomposée. Et pas seulement la France. Regardez l'Espagne, regardez l'Italie, regardez le Royaume-Uni, regardez les États-Unis, pour ne citer qu'eux.
Est-ce que Macron y a contribué, en fait, non, à cette division de la France ?
Non, Macron, quand on lit le livre de ces deux conseillers, qui est, à mon avis, un livre un peu hâtif et pas très convaincant, on voit qu'ils n'ont pas mesuré. Ils ont vraiment encouragé l'individualisme. C'est-à-dire, ils ont dit, voilà, il faut donner aux individus, séparés, chacun, etc., les moyens d'assumer leur destin.
C'est leur conviction, et c'est ce que disait disait le candidat Macron pendant la présidentielle.
Comment ?
C'est ce que disait le candidat Emmanuel Macron pendant sa
oui,
campagne.
Oui, et il l'a pas fait suffisamment. Et je pense qu'il faut réfléchir. Il y a plusieurs possibilités. D'abord, il faut effectivement reconstituer un système politique qui soit de bas en haut. Sinon, on a les gilets jaunes. C'est ça l'inconvénient des courroies de transmission que j'évoquais tout à l'heure. Il faudrait qu'il y ait une gauche, une droite, un centre macronien qui, avec une base, avec des gens qui paient des cotisations. Il faut réhabiliter les partis. Il faut rediscuter avec les syndicats. On a quand même Monsieur Berger, qui est maintenant le président du premier syndicat de France. C'est quand même une nouveauté.
Et on nous a dit j'ai les nerfs quand il voit la réforme de l'assurance chômage, en disant.
Oui, mais je sais, le problème de Laurent Berger, je vois bien, il est très en avant de sa centrale syndicale. Donc il est en permanence tiraillé entre une volonté de réforme et une base qui est effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui est assez réservée. Et puis il y a le Sénat. Moi je suis le Sénat et les collectivités territoriales. Je crois que il faut avoir développé sur tout le volet gestion des territoires, je voudrais, ça c'est pas du tout dans les papiers du gouvernement, mais je trouve que je lance un appel, il faudrait avoir un volet collectivité territoriale de compétences égales entre le Sénat et l'Assemblée pour créer vraiment un lien entre les élus territoriaux et l'organe législatif. Je pense que ça serait très intéressant de donner un bloc de compétences égales entre le Sénat et l'Assemblée sur les questions territoriales.
Françoise Fressoz.
Comment on recrée du ciment dans la société et quel est le rôle d'Emmanuel Macron dans les années qui viennent sur ce sujet-là?
Mais écoutez, j'ai répondu pour partie. Je ne dis pas que ça suffit. Je suis un très bon fabricant de ciment, mais enfin, je donne quelques éléments. Ensuite, Macron a quand même veillé à ce que le pouvoir d'achat, c'est quand même assez impressionnant. Toutes les notes qui sortent maintenant montrent bien qu'il y a une augmentation très importante du pouvoir d'achat qui a été ciblée sur ces classes moyennes en bas, les classes qui étaient précisément à la base des gilets jaunes. Je crois que là, il y a eu une réponse qui est embêtante d'ailleurs par ailleurs, parce qu'on a un problème d'équilibre des comptes publics. C'est pas pour rien qu'on a du mal en France depuis 50 ans à gérer les comptes publics. Mais là, on a quand même fait une réponse sociale et il faut répondre, à mon avis, beaucoup plus en profondeur qu'on ne le fait aux défis écologiques. Je pense que la diversité des espèces, les problèmes de santé, les perturbateurs endocriniens, les problèmes d'équilibre des ressources, les problèmes climatiques sont des enjeux qui sont ressentis par tout le monde.
Nathalie Saint-Cricq.
Vous n'avez pas l'air d'être un fan de la démocratie directe. Mais est-ce que c'est pas un moyen? Est-ce que c'est pas un moyen justement de renverser la vapeur, c'est-à-dire de faire que les gens aient l'impression qu'ils s'expriment, qu'on les écoute? Est-ce que par la même occasion, le fait que la révision constitutionnelle ait l'air d'être sérieusement repoussée, que votre proportionnelle, enfin la vôtre, celle de François Bayrou, en tout cas, est un peu de plomb dans l'aile pour l'instant. Bref, est-ce que plus de démocratie directe, plus d'associations, plus de RIP, plus de proportionnelle, est-ce que c'est impératif de faire ça et de s'entraîner?
Moi, je fais une distinction entre la proportionnelle et le reste. Je crois qu'il faut une dose importante de proportionnelle.
Combien?
Je suis pas entièrement d'accord avec le projet de mon président, mais je sais pas combien. Je pense qu'il faudrait un autre système. Je pense notamment, j'avais beaucoup réfléchi avec Jacques Lang au moment du comité Balladur. On avait préparé la révision de la Constitution de 2008, et il me disait cette chose juste, que si on interdisait les cumuls, il fallait en même temps supprimer le scrutin uninominal. C'était l'un ou l'autre, qu'on devait à ce moment-là passer un scrutin de liste. Et moi, je verrais que dans le cadre de circonscription départementale ou bidépartementale, on ait un mode de fonctionnement à peu près comparable à celui qu'on a pour les communes. D'accord. C'est-à-dire une prime majoritaire et une grande. Mais il faut que le Front National ait une représentation qui corresponde à quelque chose. Ça n'a aucun sens de continuer comme ça. En revanche, sur la démocratie directe, je suis d'accord avec le livre de Monsieur Tavouelot qui a publié, qui a dit quelque chose de très intéressant. Je pense qu'il y a deux choses qui sont importantes. C'est le travail. Or, la démocratie directe ne permet pas le travail du législateur. Un élu n'est pas quelqu'un qui a fait l'ENA, mais c'est quelqu'un qui consacre 30 heures de débat et qui étudie les choses. Il faut, c'est compliqué de faire des lois. Et deuxièmement, il faut éviter le manichéisme. Qu'est-ce que c'est qu'un référendum ? C'est un système hégelien avec une thèse, une antithèse, mais pas de synthèse. Or, vous devez réconcilier les Français. Vous avez besoin d'une délibération. Vous avez besoin d'un compromis. Vous avez besoin de quelque chose qui rassemble.
Mais oui, c'est la démocratie sans le peuple, ce que vous dites.
Sinon, vous créez la situation à l'anglaise. On voit très bien deux Angleterres, la famille Johnson qui est séparée, le frère qui est Remainer, l'autre qui va devenir Premier ministre Brexiteur. C'est le drame dans les familles, c'est l'affaire Dreyfus.
Karine Bécart.
Cette réforme constitutionnelle, donc, elle a été poussée là, dans l'immédiat, parce que le gouvernement a décidé de privilégier plutôt la révision de la loi bioéthique et ce qui va avec la PMA. Est-ce que le gouvernement a fait le bon choix en privilégiant cette PMA, je vais le résumer comme ça, plutôt que la réforme constitutionnelle?
Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? La PMA est un sujet qui m'inquiète beaucoup parce que je crois que le diable est dans les détails.
La PMA pour toutes ou la PMA en général?
Toutes ces questions bioéthiques me paraissent vraiment chargées de très très grandes
dérives potentielles. Non mais la PMA ça existe depuis 50 ans, la fécondation in vitro,
je ne répondrai pas précisément, parce que je crois que tout est dans les détails. Il y a le problème de la congélation des ovocytes, il y a le problème de l'identification du donneur. Moi je crois que c'est absolument impossible, et je crois que Mme Buzyn a dit des choses très justes de ce point de vue-là ces jours-ci. Je crois qu'il est absolument essentiel qu'on puisse identifier le donneur. On ne peut pas... Il y a le problème des conditions légales d'organisation, quelles seront les procédures par rapport aux familles, aux droits de la filiation. Tout ça demande énormément de précision, mais d'une façon générale, je trouve qu'on se lance dans des machins dont on ne mesure pas, et je parle pas simplement de la PMA, je parle de la fin de vie,
parlons de la PMA, parce que la fin de vie ne sera pas discutée dans le cadre de la révision des lois de bioéthique. Vous voterez pour ou pas?
Je crois qu'il faut...
Mais est-ce que vous voterez pour?
Je me garderai bien de vous répondre aujourd'hui sur cette question.
Législateur, député.
Je verrai le projet de loi, je vais l'étudier, je vais le discuter, je l'amenderai.
Mais le principe général de l'ouverture de la PMA pour toutes les femmes...
Je suis réservé.
Pourquoi? Alors, qu'est-ce que vous craignez? Globalement, on vous sent très inquiet sur ce sujet. C'est quoi votre inquiétude fondamentale?
Oui, mais moi, je suis de ce point de vue-là assez classique. Je n'aurais pas fait le mariage pour tous comme l'a fait François Hollande. J'étais partisan d'une union. Je trouve que la démarche qui avait été celle d'Elisabeth Guigou était la bonne au moment du Pax, qu'on aurait dû développer le Pax, qu'on aurait dû donner les mêmes droits.
Non, ils n'ont pas l'histoire.
Les mêmes droits. Oui, mais alors on nous a dit qu'on faisait le Pax pour ne pas avoir le mariage pour tous. On nous a dit qu'on faisait le mariage pour tous pour ne pas avoir la PMA. On nous dit qu'on fait la PMA pour ne pas avoir la GPA. Tout ça n'est pas inquiétant. Moi, je considère assez simplement que la sexuation, si je puis dire, de la famille est un élément absolument central.
La sexuation de la famille.
Ça veut dire qu'il y a un homme et une femme derrière. Je pense que c'est important, même si effectivement il peut y avoir des couples homosexuels et des célibataires qui élèvent parfaitement les enfants. Mais
il y a quelque chose qui ne tient pas debout, excusez-moi, dans votre raisonnement. Vous êtes européen depuis le début. Or, aujourd'hui, alors même que la PMA n'est pas autorisée, je prends le train, si ça m'intéresse, je vais en Belgique ou je vais ailleurs en Europe et je peux très bien me faire inséminer. Bon, je ne vais pas donner les détails de la suite. Donc, est-ce que finalement, il n'y a pas un sens de l'histoire qui fait que, même si éthiquement ou intellectuellement, vous avez des réticences, on peut pas aller contre le progrès. Et même si on considère que ça n'en est pas un.
C'est pourquoi je vous ai dit que je ne dirai pas comment je vote, parce que je n'ai pas encore décidé ma façon de voter. Je crois que l'argument que vous donnez est intéressant, mais il ne vaut pas légitimation. C'est pas parce que je vais faire une comparaison absurde, mais c'est pas parce qu'il y a des gens qui violent la loi, partout, tout le temps, qu'il faut supprimer la loi.
C'est accompagner le mouvement, et d'ailleurs Agnès Buzyn dans le JDD explique très bien, en y rajoutant en plus le droit à la filiation et aux origines.
Oui,
c'est-à-dire, c'est pas simplement faire comme les autres, c'est faire dans le mouvement de l'histoire en accompagnant avec quelque chose en plus.
Oui, je comprends. Je vous dis, je n'ai pas du tout arrêté ma décision parce que je sens bien, d'une façon générale, je sens bien que tout cela se fera.
Et ça vous déplaît.
Y compris la GPA. Tout se fera. Tout se fera. Et je suis inquiet. Alors, je le maintiens. Je suis inquiet au-delà de cela. J'essaie de voir un peu plus loin. Je suis inquiet du développement de nos sociétés vers l'eugénisme. Je crois que nous avançons à travers des tas de moyens, des tas de modifications, nous avançons vers une société où, après le désir d'enfant, on va choisir l'enfant que l'on désire et on va le bâtir, lui donner les qualités intellectuelles, physiques qu'on attend de lui. Je crois que la technologie, dans 40 ans, le permettra et je regarde avec effroi ce monde-là. C'est tout. Maintenant, ne me faites pas prendre une position dogmatique. Je ne suis absolument pas dogmatique. Je suis simplement assez inquiet des évolutions technologiques et je ne sais pas exactement où il faut mettre le haut là. Et comme vous le dites très bien, si même on peut mettre le haut là, je pense que nous allons vers un monde où nous ne contrôlons plus du tout ces problèmes et c'est très inquiétant.
Karine Becker.
Je voudrais parler aussi de l'immigration. On a le sentiment que du côté de l'Élysée, le ton a changé, que le discours sur l'immigration est en train de se raffermir. Qu'en pense le démocrate chrétien que vous êtes ? Est-ce que vous êtes à l'aise avec ce que vous entendez aujourd'hui ?
Je ne suis pas démocrate
chrétien. Chrétien-démocrate ?
Je suis démocrate et chrétien.
Okay.
Il me manque le trait d'union. Mais écoutez, je ne sais pas si il me semble que la sensibilité dominante du discours d'Emmanuel Macron n'est pas tout à fait celle qu'il avait au moment de la campagne.
C'est le moins qu'on puisse dire, non?
Je sais pas.
Vous voyez qu'il glisse vers la droite quand même pour
répète
revenir.
Ce que vient
non,
de
non,
dire,
mais vous utilisez les euphémismes.
Non, je pense qu'il n'y a pas quand même. Non, parce que je ne pense pas qu'il y ait non plus de rupture fondamentale. Je n'ai pas voté la loi Collomb. Je n'ai pas voté la loi Collomb, pas tellement, bon, il y avait des choses qui me déplaisaient, mais parce que je trouve que c'était pas une vraie loi.
La loi asile et immigration.
Oui, c'était une loi qui régentait la file d'attente des demandeurs d'asile et pas du tout une loi qui posait le problème de l'immigration. Je crois que en France et en Europe, nous n'avons pas à ce jour de politique migratoire. C'est ça le problème. Alors, je ne sais pas s'il faut être dur ou pas dur, mais je pense qu'il faut avoir que maintenant la migration se pose en des termes totalement différents d'avant. C'est pas seulement des demandeurs d'asile qui sont persécutés par d'horribles dictateurs. C'est quelque chose de. Ce sont des mouvements beaucoup plus massifs, à la fois politiques, climatiques, économiques. On ne peut pas accepter effectivement des transferts de population massives. Donc, il faut qu'il y ait un contrôle de la puissance publique. On ne peut pas non plus laisser toutes ces personnes dans une situation impossible, on ne peut pas rétablir un ordre colonial, donc tout ça est extrêmement complexe là aussi. Je pense que l'Europe et la communauté internationale doivent prendre à bras le corps.
Faut-il des quotas
problème.
Puisque la question a été évoquée, il est possible que les députés aient à définir des quotas d'immigration chaque année.
Oui, je ne sais pas ce que ça veut dire des quotas d'immigration, parce que on a des règles de droit, c'est ça qui compte.
Attendez, quand vous, si vous,
soit on a droit à l'asile, soit on n'y a pas droit. Si on a droit à l'asile, on ne va pas vous dire monsieur, vous êtes hors quota.
Pas pour l'asile, c'est comme ça. Pour l'asile.
Oui, mais au Canada, c'est comme ça, mais je suis pas canadien.
Non, mais ça marche. Quand je veux dire, non, ça peut fonctionner.
Oui,
ça
non, mais soit le droit, c'est le droit, le quota, c'est le quota.
En tout cas, vous dites que Emmanuel Macron là n'essaye pas de courir un peu derrière le Rassemblement National, en fait, en.
Non, je crois. Mais
en ayant un autre discours, encore une fois.
On ne court pas derrière le Rassemblement national. Le Emmanuel Macron ne court pas. On a simplement un problème massif qui est devenu quelque chose qui préoccupe 80% de nos concitoyens. Donc, il faut effectivement affronter cette question de façon raisonnable. Et raisonnable, ça veut dire construire un état de droit qui soit solide et en même temps éviter que on ait des transferts de population que nous sommes incapables de gérer juridiquement, économiquement et politiquement.
Je rappelle juste quand même que pendant sa campagne présidentielle, Mme Macron va en Allemagne pour féliciter Mme Merkel de la démarche qu'elle a eue vis-à-vis des immigrés.
Mais moi aussi,
on a le sentiment que
j'ai parlé en Allemagne, mais j'ai écrit des choses là-dessus et je suis tout à fait d'accord et je maintiens. Je crois que Mme Merkel a eu tort de klaxonner. Hein, de sortir les trompettes de la renommée, parce qu'elle a vraiment brusqué, de ce point de vue-là, notamment les Hongrois, les gens d'Europe qui ont dit « non, c'est pas tout à fait ça ». Mais en revanche, il était tout à fait normal qu'elle fasse cela. Ces gens avaient le droit d'avoir un droit d'asile. Simplement, Mme Merkel s'est trompée politiquement. Elle a cru que parce que elle défendait les droits fondamentaux et que le patronat allemand, compte tenu de la situation démographique allemande, avait besoin d'immigrer, elle pouvait y aller. Et elle a méconnu que les classes moyennes, ce qui s'est passé au moment de l'affaire de la gare de Cologne, que les classes moyennes étaient très réactives. Et après, elle a fait un virage un peu excessif dans l'autre sens. Donc il faut, c'est extrêmement difficile à gérer, mais je crois que Mme Merkel a eu tout à fait raison de dire que nous avions un devoir d'hospitalité face aux migrations d'origine syrienne.
Juste à côté le devoir histoire d'hospitalité. Vous avez dit que vous êtes démocrate et chrétien. Est-ce que vous croyez que les préoccupations autour de l'identité chrétienne ou pas, de l'Europe, de la France et tout, c'est un problème derrière nous ou devant nous? Et est-ce que François-Xavier Bellamy et Laurent Wauquiez, qui tablaient là-dessus, se sont totalement trompés?
Ils n'ont pas défini le problème dans les termes. Moi, mon maître en cette affaire, c'était l'historien qui est mort maintenant, grand historien médiéviste Le Goff, qui avait très bien analysé que l'identité européenne, c'est la laïcité. Car ce qui caractérise le mouvement historique de l'Europe depuis le 5e siècle après Jésus-Christ, c'est la dissociation de ce que Pascal appelle les trois ordres, c'est-à-dire l'ordre politique qui va vers la démocratie, l'ordre intellectuel, c'est-à-dire la liberté de recherche, donc la croissance, l'invention technologique, et troisièmement le fort intérieur, la liberté de conscience religieuse. Et c'est ce qui caractérise l'Europe, c'est ça. Alors, c'est à la fois chrétien et laïque. Je suis désolé, c'est de l'en même temps, mais c'est du bon en même temps.
Françoise Fressoze.
Et justement, le président de la République, depuis le début du quinquennat, on ne sait pas trop sa position sur la laïcité. Est-ce qu'il faut faire une laïcité offensive? Est-ce qu'il faut faire une laïcité douce? Quelle est votre position à vous?
Bon, ma position a toujours été la même. Je crois que c'est celle du président. Enfin, j'ai pas lieu de penser qu'il voit ça autrement. C'est mon maître en cette affaire, c'est Jules Ferry. C'est-à-dire la neutralité de l'État, la neutralité vigilante de l'État, la liberté de conscience et le soin, la surveillance des frontières. C'est les grands républicains, qui avaient des Crousseau et Ferry, et pas le père Combe, qui lui avait une conception offensive et irreligieuse de la laïcité.
Un exemple très concret. Darmanin dit qu'il faudrait interdire les listes communautaristes aux élections municipales. Qu'est-ce que vous répondez?
Qu'est-ce que ça veut dire communautarisme?
Les chrétiens démocrates, par exemple, j'imagine. Oui. Non, mais ça vous fait rire, mais en l'occurrence...
Une liste de partis musulmans, comme il y en a eu.
Nous avons toujours veillé à ça en France, parce que ouais. Le parti chrétien démocrate ne s'est jamais appelé chrétien démocrate, il s'est appelé Mouvement républicain populaire, et c'est pas par hasard.
Mais si un mouvement communautaire musulman faisait la même chose, on le lui reprocherait en disant que c'est de la dissimulation.
Je crois que le vrai problème, c'est de savoir si ce mouvement respecte ou non les lois de la République. C'est tout. Il y a des lois très précises sur les femmes, sur la liberté, sur le mariage, sur la liberté de conscience, sur le fait de pouvoir changer de religion. Tout ça, c'est central. Et c'est soit clair. On le respecte, soit on le respecte pas. Si on le respecte, on est dans les clous. Si on ne le respecte pas, on ne l'est pas.
Est-ce que vous lirez Passion, le livre que publie Nicolas Sarkozy, qui arrive en librairie dans quelques jours?
Moi, je lis toujours avec intérêt ce que dit Nicolas Sarkozy, que je crois un personnage qui est assez intéressant, qui a été un assez bon gouvernant et un assez mauvais président. Je veux dire qu'il n'a pas incarné la fonction, mais il a fait de très bons choix pour la France, notamment en matière européenne.
Il n'a pas incarné la fonction.
Il peut donner un coup de main.
Vous l'avez qualifié d'adolescent de l'Élysée à l'époque.
Il peut donner un coup de main aux Républicains. Il peut revenir. Il peut les aider. Il peut aider à reconstruire.
J'en sais rien.
Lui, il appelle à une formation plus large, un peu comme vous. C'est-à-dire pas du tout. Il a dénoncé il y a quelques jours le comportement sectaire.
Oui, mais il y a un temps pour tout.
Un temps pour penser.
Ce que vous dites, c'est que sa vie politique est terminée.
Il est. Il faut jamais dire ça parce que après on voit que le maréchal Pétain réapparaît.
C'est pas le
maréchal Pétain de Sarkozy, mais il faut jamais dire ça. Mais je crois effectivement, bien qu'il manœuvre beaucoup plus habilement que François Hollande, je crois que ça sera pas facile pour lui de revenir.
Notamment à cause des affaires judiciaires et le fait qu'il sera jugé pour corruption.
On verra ce que ça donnera, mais
c'est pas
forcément une fusée porteuse.
On a célébré cette semaine les 50 ans la disparition de Georges Pompidou. Est-ce que vous voyez dans Emmanuel Macron du Pompidou comme lui-même, Emmanuel Macron l'écrit
j'ai beaucoup d'admiration pour notre président, j'ai beaucoup d'admiration et de respect pour Georges Pompidou.
Mais vous voyez pas les
traits communs. Mais je trouve pas que ce soit tout à fait le même modèle.
C'est Giscard le modèle?
Je trouve que Pompidou n'a pas très bien su. Parce qu'il a été assez vite malade, ce qu'il aurait vraiment pleinement donné s'il avait eu la santé, sauf en mai 68. Et je garde un immense respect pour la façon dont il a tenu le coup, alors que le général de Gaulle lui-même avait un peu vacillé en mai 68. Pompidou a vraiment contribué à sauver la République. C'est important.
Alors c'est quoi le modèle Macron pour vous? Il vous fait penser à qui?
Il me fait penser à lui-même. Je crois qu'il n'est pas, il n'y a pas de prédécesseur. C'est un homme jeune. C'est assez rare d'avoir des hommes jeunes à la tête du pays. Le précédent, c'était Napoléon, qui était plus jeune que lui encore. Alors ça a donné des résultats mitigés.
Et ça a mal fini.
Napoléon.
Mais non, je crois que c'est, je crois qu'il a, il représente si des gens comme Félix Gaillard, etc. Mais c'est des réformateurs qui sont intelligents, avisés, qui comprennent les choses. Mais c'est la première fois que un réformateur de cet ordre a vraiment les manettes, a vraiment
Giscard,
du pouvoir.
Ouais, Giscard, voilà, on a le sentiment quand même.
Giscard, oui,
jeune et pas mal de réformes.
Valéry Giscard d'Estaing était plus enraciné dans une tradition politique, celle de la République modérée depuis très longtemps. Il était issu d'un courant politique. Alors, ce qui caractérise Emmanuel Macron, c'est qu'il a mêlé ensemble des traditions, la tradition technocratique gaulliste, la tradition libérale, un petit peu de tradition populiste qui est apparue, etc., qu'il a fait un mixte très original de tout cela. Et c'est en ça qu'il est comparable à Napoléon, parce que Napoléon aussi a fait un mixte, quand il est arrivé au pouvoir, de traditions d'Ancien Régime et de Révolution. Mais je m'arrêterai là.
On verra si
je crois qu'il n'y aura ni Austerlitz, ni Waterloo.
Et de lui, vous diriez qu'il est à la fois gouvernant et président, il incarne.
Ah oui, ça, je crois que oui, il est très gouvernant, peut-être un peu trop. Je lui conseillerais plutôt, l'émission comme le général Staline. De Gaulle faisait, de dormir un peu plus la nuit. De Gaulle disait, mes collaborateurs, il ne faut pas qu'ils travaillent trop. Et en même temps, je crois que oui, il incarne. Et quand moi, je suis toujours saisi d'admiration pour les grands discours sur Simone Veil que vous avez évoqué tout à l'heure. Sur le...
On va devoir en rester là, Jean-Louis Bourlange. Malheureusement, ça passe vite, trop vite. Je vous souhaite un bon dimanche. Merci d'avoir été notre invité. Merci à toutes les trois. Et merci à Alexandre Gilardi et à toute l'équipe technique de Questions Politiques. Et à donc à la semaine prochaine.